الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو الرابع من شهر ذي الحجة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 28 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 28 septembre 2014 et aujourd'hui nous entrons dans le 28e cours de l'étude de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم basé sur le livre de l'imam ibn Kathir رحمه الله, les passages dans la vie du messager. Et nous avons terminé de lire l'histoire de la calomnie dont a été victime Aïcha radiyallahu anha. Nous avons cité cette histoire dans sa globalité et dans le dernier cours avec tous ses détails, comme l'imam al-Bukhari rahimahullah l'a rapporté dans son recueil. قال ابن كثير رحمه الله هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر بني قريظة، وقد كانت عقب الخندق، وهي في سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع. قال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه إن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، وهذا خلاف الجمهور. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن عائشة في ذلك، فقالت أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما قال ولم ينجل الإشكال. Maintenant, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous parle de ce qui a posé problème à certains savants historiens quant à la date pendant laquelle a eu lieu l'expédition contre les Bani al-Mustaliq. Nous avons vu que l'imam Ibn Kathir rahimahullah a choisi comme avis que cette bataille a eu lieu en l'an 6. C'est l'avis de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, comme il le dit au début du chapitre. Ibn Kathir rahimahullah va nous montrer un peu quels sont les avis de certains historiens. Il nous dit: c'est ainsi qu'est rapporté cet épisode dans les deux recueils authentiques. De quel épisode est-ce que l'on parle? Nous parlons ici de l'histoire de la calomnie contre Aïcha radiallahu anha. L'altercation aurait opposé Sa'd ibn Ubada à Sa'd ibn Mu'adh. Et donc, ceux qui étaient là dans les cours précédents savent de quelle altercation est-ce que l'on parle. Nous sommes ici en train de terminer ce chapitre et ensuite nous allons passer à un nouveau, Inch'Allah. Sa'd ibn Ubada est le chef des Khazraj et Sa'd ibn Mu'adh est le chef des Aws. L'altercation aurait opposé Sa'd ibn Mu'adh à Sa'd ibn Ubada, ce qui posa problème à nombre d'historiens des expéditions et batailles de l'islam. Pourquoi est-ce que cela leur a posé problème? Car il est connu que Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, est décédé, il a succombé à sa blessure dont il a été victime pendant la bataille des coalisés. Et il est mort tout de suite après la bataille de Qurayza, l'attaque contre les Juifs pour se venger de leur trahison. Et cette attaque a eu lieu en l'an 5 de l'Hégire. Ibn Kathir dit « Cela nous pose problème. » Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la calomnie contre Aïcha, radiyallahu anha. Et dans l'histoire de cette calomnie, on voit que Sa'd ibn Mu'adh était présent. D'ailleurs, il a débattu avec Sa'd ibn Ubad. Ils ne se sont pas entendus. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Qui me porte secours contre celui qui m'a fait du mal dans ma famille ?» En parlant du chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui a accusé Aïcha d'avoir commis l'adultère. Et on voit dans cette histoire que Sa'd ibn Mu'adh est vivant, il est présent. Donc on ne peut pas dire que cette histoire a eu lieu en l'an 6. Car on sait, de source sûre, que Sa'd ibn Mu'adh a succombé à ses blessures en l'an 5. C'est pour cela qu'Ibn Kathir, rahimahullah, a dit que cela pose problème. Il dit, et pour cause, Sa'd ibn Mu'adh, nulle divergence à ce sujet, mourut après l'expédition contre les Bani Qurayza, à la suite du siège de la tranchée. C'est-à-dire, c'est l'avis le plus sûr, en l'an 5 de l'Hégire. Donc si on dit qu'il est mort en l'an 5 de l'Hégire, comment peut-on dire que la calomnie a eu lieu en l'an 6 et que dans cette calomnie, il était présent? Donc forcément, on comprend que la calomnie n'a pas eu lieu en l'an 6. Elle a eu lieu en l'an 5. Et c'est un avis très fort. Et c'est la vérité, wallahu a'lam, comme le dit Cheikh Abdelrazzaq. De même, nul doute que l'épisode de la calomnie se déroula au cours de l'expédition contre les Bani al-Mustaliq, également appelée l'expédition de Al-Muraysi'a, comme l'affirme l'imam Az-Zuhri. Différentes réponses ont été apportées à cette apparente contradiction. Ainsi, rapporte Al-Bukhari, Moussa ibn Uqba explique que l'expédition d'Al-Muraysi'a, ou encore l'expédition des Bani al-Mustaliq, eut lieu lors de la quatrième année de l'Hégire. Mais son avis va à l'encontre de celui de la majorité des savants de l'islam. Car la majorité des savants, ils disent que cette bataille a eu lieu en l'an 5. Et donc c'est encore un autre problème. Car au début du chapitre, Ibn Kathir rahimahullah nous dit que certains ont dit qu'elle a eu lieu en l'an 5 et d'autres en l'an 6. Ibn Kathir a dit qu'elle a eu lieu en l'an 6. Et maintenant, il nous amène un troisième avis dans lequel il est dit que Moussa ibn Uqba aurait dit, et c'est un grand imam, que cette bataille a eu lieu en l'an 4. D'où l'importance de ne pas étudier seul et de ne pas lire les livres seul sans l'explication d'un cheikh. Et l'explication que vous entendez, ce n'est que celle que j'ai prise du cheikh Abdelrazzaq, hafidhahullah ta'ala. Le cheikh Abdelrazzaq, à ce passage, dit que l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire du recueil authentique de l'imam al-Bukhari, a corrigé cet avis en disant « Il apparaît que c'est une erreur de frappe, qu'en fait il a voulu écrire que cette bataille a eu lieu en l'an 5. Cette bataille a eu lieu en l'an 5. » Et il dit « Appuie cela », puis il cite un certain nombre d'arguments qui sont tous authentiques, qui montre que Moussa ibn Uqba, dont on parle ici, et qui aurait dit que cette bataille a eu lieu en l'an 4, a dit en vérité qu'elle a eu lieu en l'an 5. Donc celui qui a noté a peut-être fait une erreur. Ce qui est connu et retenu de Moussa ibn Uqba, c'est qu'il a dit que cette bataille a eu lieu en l'an 5. Et donc, avec cet élément, il n'y a plus de problème. Mais Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, continue et dit: d'ailleurs, le hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha contredit son affirmation. En effet, Aïcha a dit: après que soit révélé le verset imposant le hijab. Or, nul ne conteste que ce verset fut révélé le lendemain matin de la nuit de noces du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zainab bint Jahsh. Il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogea Zainab au sujet de Aïcha et que celle-ci répondit: je me garde d'écouter ou de regarder. Aïcha dira d'elle: pourtant elle était parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui rivalisait le plus avec moi. Ici, Ibn Kathir rahimahullah cite ces points pour nous enseigner que pendant la calomnie et donc la bataille de Bani al-Mustaliq, le prophète alayhi salatu wa salam était bien marié à Zainab bint Jahsh, puisque à ce moment-là, le moment de la calomnie, Aïcha a dit de Zainab qu'elle rivalisait le plus avec moi, c'est-à-dire parmi les épouses du prophète. Et Zainab s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 5 de l'émigration, ce qui nous montre que cette bataille a bien eu lieu en l'an 5. Ibn Kathir continue et dit: d'ailleurs, les historiens précisent que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zainab eut lieu au mois de Dhul-Qi'da en l'an 5 de l'Hégire. Tous ces faits contredisent donc l'avis de Moussa ibn Uqba et le problème reste entier, c'est-à-dire que le problème n'a pas été résolu. Mais en vérité, il a été résolu puisqu'on vient de voir que c'est une erreur et que Moussa ibn Uqba n'a pas dit que cette bataille a eu lieu en l'an 4, mais elle a eu lieu en l'an 5. Donc le problème n'existe plus. Mais Ibn Kathir rahimahullah n'a peut-être pas su cet élément. Quant à l'imam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, il affirme ce qui suit: l'expédition contre les Bani al-Mustaliq se déroula en l'an 6. Puis il y mentionna le récit de la calomnie qu'il débuta ainsi: d'après Zuhri, d'après Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utbah, d'après Aïcha, avant d'affirmer que Usayd ibn Hudayr se leva et dit: je te préserverai de lui. Et il n'évoqua donc pas Sa'd ibn Mu'ad. Pour résumer, l'imam Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ta'ala a lui adopté l'avis que la calomnie et Bani al-Mustaliq ont eu lieu en l'an 6 de l'Hégire. Quels sont les éléments dont il s'est servi? Premièrement, il faut savoir que Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, pour lui, le calendrier musulman lunaire ne commence pas au mois de Muharram, mais il commence au mois de Rabi' al-Awwal, le mois au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine quand il a émigré et quitté la Mecque. C'est pour lui le premier mois du calendrier lunaire. Et la plupart des savants l'ont contredit dans cela. Et on dit, ce qui est connu, que le premier mois lunaire est le mois de Muharram. Et Rabi' al-Awwal vient quelques mois après. Et donc, selon sa façon de compter, si on dit que le premier mois lunaire c'est Rabi' al-Awwal, étant donné que la bataille de Bani al-Mustaliq et la calomnie ont lieu au mois de Sha'ban, avec le calcul, ça fait que elle a eu lieu à la sixième année. C'est pour ça qu'Ibn Ishaq dit qu'elle a eu lieu en l'an 6. Mais la plupart des savants l'ont contredit dans cela. Et ils ont dit que le calendrier lunaire commence au mois de Muharram. Donc, il reste une chose à dire: cette bataille et cette calomnie ont eu lieu en l'an 5 de l'Hégire. Ont eu lieu en l'an 5 de l'Hégire, et avec cela, il n'y a plus aucun problème. Il affirme ce qui suit: l'expédition contre les Bani al-Mustaliq se déroula en l'an 6. Puis, il mentionna le récit de la calomnie qu'il débuta ainsi. Ça, c'est son deuxième élément qu'il va rapporter. Il va citer les personnes qui ont rapporté l'histoire de Aïcha, qui raconte sa propre histoire qu'elle a vécue, celle de la calomnie. Et dans cette histoire que lui a rapportée, il dit que c'est Usayd ibn Hudayr qui s'est levé pour dire à Sa'd ibn Ubada, pour dire à Sa'd ibn Mu'adh, ou bien à Sa'd ibn Ubada, na'am, qu'il n'a pas raison. Vous vous souvenez quand le prophète a.s. a voulu que quelqu'un le défende à cause du mal que l'hypocrite a fait à sa femme quand il l'a accusé, il a élevé sa voix et a dit: qui parmi vous me défend contre cet homme-là qui m'a fait du mal dans ma famille? Sa'd ibn Mu'adh s'est levé et a dit: ô messager d'Allah, s'il fait partie de notre tribu les Aous, on lui tranchera la gorge. Et s'il fait partie de nos frères les Khazraj, donne-nous l'ordre que tu veux et on l'appliquera. Sa'd ibn Ubada s'est levé, c'était le chef des Khazraj, il s'est énervé contre son frère Sa'd ibn Mu'adh et lui a dit: tu ne le tueras pas. Et ils se sont mal entendus, disputés. Puis le troisième, Usayd ibn al-Hudayr, s'est levé et a dit à son cousin Sa'd ibn Ubada: tu es un hypocrite et tu défends les hypocrites. C'est-à-dire qu'il y a un climat de trouble qui s'est créé entre eux. Eh bien, dans cette version que nous rapporte Ibn Ishaq, et c'est son deuxième argument pour nous dire qu'elle a eu lieu en l'an 6, il nous dit que ce n'est pas Sa'd ibn Mu'adh, mais c'est Usayd ibn Hudayr qui s'est levé contre Sa'd ibn Ubada. Donc à ce moment-là, Sa'd ibn Mu'adh n'est pas vivant, donc il n'y a pas le problème. Comprenez ? Il n'y a plus besoin de dire que Sa'd ibn Mu'adh, comme il était vivant, forcément cette bataille a eu lieu en l'an 5, puisque pour lui, il n'était pas là dans cette histoire. Mais de toutes ces choses-là, ce qui est à retenir, c'est que Bani al-Mustaliq et l'Ifk, la calomnie, ont eu lieu en l'an 5 de l'Hégire. قال رحمه الله تعالى ثم في الحديث نعم هذا قرأنا وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 وذكر فيها حديث الإفك إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث قال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه ولم يذكر سعد بن معاذ قال أبو محمد بن حزم وهذا الصحيح الذي لا يشك فيه وذلك عندنا وهم وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح قلت وهو كما قال إن شاء الله وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد قد نبه الناس على أكثرها وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف والله سبحانه وتعالى أعلم. ابن كثير رحمه الله تعالى conclut ce chapitre en disant: quant à Abu Muhammad, l'imam Ibn Hazm, il fit ce commentaire. Ceci est l'explication juste, nul doute à ce sujet. C'est-à-dire l'explication d'Ibn Ishaq, que cette bataille et cette calomnie ont eu lieu en l'an 6. Il continue. Quant à la mention de Sa'd ibn Mu'adh, il s'agit d'une confusion. S'en suivit un long commentaire d'Ibn Hazm qui reconnaît pourtant que Sa'd est mentionné dans le récit à travers différentes chaînes de narrateurs authentiques. Selon moi, Abu Muhammad ibn Hazm a raison. C'est Ibn Kathir qui parle. D'ailleurs, plusieurs hadiths largement mentionnés par les savants ont été rapportés au sujet de ce récit sans pour autant en changer la teneur. Certains ont par ailleurs proposé des explications peu convaincantes, mais Allah le Très-Haut, pureté à lui, en est mieux informé que quiconque. Et le résumé de tout cela, c'est que la bataille de Banu al-Mustaliq et ce qui a suivi la calomnie contre Aïcha ont eu lieu en l'an 5, non pas en l'an 6 et encore moins en l'an 4. Et ainsi on termine le chapitre concernant la calomnie, pour passer à ce nouveau chapitre qui est celui de Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah, c'est le nom d'un puits. C'est le nom d'un puits qui se situe dans un endroit. Et c'est pour ça que cette expédition a été appelée Al-Hudaybiyah en référence au lieu où elle a eu lieu. قال رحمه الله تعالى ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في ألف قيل وخمسمائة قيل وأربعمائة وقيل وثلاثمائة وقيل غير ذلك وأما من زعم أنه إنما خرج في سبعمائة فقد غلط فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام وقدموا على خير لهم خالد بن الوليد إلى قراع الغميم وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق فانتهى إلى الحديبية وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر في العام المقبل فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل في ذلك من البركة والمصلحة وكره ذلك جماعة من أصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وراجع أبا بكر الصديق في ذلك ثم راجع صلى الله عليه وسلم فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يعصيه وهو ناصره وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ندي au mois de Dhul-Qi'dah de l'an 6 de l'Hégire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque pour accomplir une umrah. Il n'y a pas eu de bataille dans Al-Hudaybiyah. Il n'y a pas eu de bataille. C'est meilleur de l'appeler Sulh Al-Hudaybiyah. C'est comme ça que la plupart des savants le nomment. Quoi qu'il en soit, au mois de Dhul-Qi'dah, de l'an 6 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'aller faire une umrah, une visite de la Mecque, pour y accomplir certains rites que l'on retrouve aussi dans le pèlerinage, en compagnie de ses compagnons radiyallahu anhum, comme nous dit Ibn Kathir, pour accomplir une umrah accompagné d'un millier de musulmans. Les chiffres de 500, 400 et 300 furent également évoqués, c'est-à-dire certains ont dit qu'ils étaient 1000, d'autres 1500, 1400, 1300. C'est une divergence au sujet du nombre des gens qui ont participé à l'envie d'aller accomplir cette umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 6 de l'Hégire. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit que ce vers quoi le cœur penche le plus et ce qui est le plus proche de la vérité, c'est de dire qu'ils étaient 1400. Et il a cité un certain nombre d'éléments pour argumenter et prouver qu'ils étaient 1400. Et c'est ce qui a été choisi par le Cheikh Abdelrazzaq wafaqahullah. Il dit, quant à ceux qui ont affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de 700 musulmans, ils se sont trompés. Informés, les polythéistes rassemblèrent leurs tribus alliées et quittèrent la Mecque dans le but d'empêcher le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans d'accomplir la Umrah cette année-là. C'est-à-dire que les musulmans ont pris la direction de la Mecque en partant de Médine non pas pour combattre, ni pour offenser qui que ce soit, mais simplement pour accomplir une umrah. Ils étaient à peu près 1400. Les kuffars de Mecca, qui sont leurs ennemis, ont entendu que les musulmans se dirigent vers la Mecque pour accomplir une umrah. Ils n'ont pas voulu accepter cela. Ils se sont donc préparés pour obstruer leur chemin et pour leur mettre des obstacles afin qu'ils fassent demi-tour et qu'ils ne viennent pas accomplir cette umrah. Vous allez connaître une des raisons pour lesquelles ils se sont opposés à cette umrah cette année-là. Ils avaient peur pour leur réputation, comme vous allez le voir. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit: ils chargèrent Khalid ibn al-Walid à la tête de la cavalerie de les devancer jusqu'à l'endroit dit Qura' al-Ghamim. Qura' al-Ghamim, c'est un endroit dont nous avons parlé dans une bataille précédente. Les kuffars de Mecca ont chargé Khalid ibn al-Walid et l'ont désigné pour qu'il devance avec sa cavalerie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il atteigne cet endroit le plus rapidement possible afin d'obstruer le prophète alayhi salatu wa salam et l'empêcher de venir faire la umrah à la Mecque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, empruntant une autre route, arriva à Al-Hudaybiyah. Lorsque le prophète a entendu que Khalid ibn al-Walid, qui plus tard va devenir musulman mais qui pendant Al-Hudaybiyah ne l'est pas encore, radiyallahu anhu, vient pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la umrah, le prophète va demander à ses compagnons. Il va demander à ses compagnons leur avis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va directement les combattre? Est-ce qu'on va directement les combattre? Ou bien on fait demi-tour et on passe par un autre endroit? Abu Bakr radiallahu anhu a dit au messager d'Allah: nous ne sommes venus que pour accomplir une umrah et nous ne sommes pas venus pour combattre des gens, mais nous y allons, et si quelqu'un s'oppose à notre arrivée à la Mecque et s'interpose entre nous, on le combat, au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: allez-y donc. L'histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Le prophète alayhi salatu wasalam leur a dit: allez-y donc. Et puis ils s'y sont dirigés. Lorsqu'ils sont arrivés dans la route, ils ont entendu que Khalid ibn al-Walid, qui va devenir musulman plus tard, radiallahu anhu, s'est arrêté à cet endroit, Qura' al-Ghamim. Le prophète alayhi salatu wasalam leur a dit de changer de route afin qu'ils ne l'atteignent pas et qu'ils ne se rendent pas compte de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wa sallam a réussi à esquiver Khalid ibn al-Walid et ils n'ont pas réussi à atteindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, empruntant une autre route, arriva à Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah, c'est le nom de cet endroit où il y a ce puits. Des pourparlers débutèrent alors entre le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et des émissaires envoyés par Quraysh. À chaque fois, il y avait un homme qui était envoyé par Quraysh pour dire au prophète, alayhi salatu wa salam, de faire demi-tour. Il n'y a pas de umrah pour toi ici. Ne viens pas à Mecca. Le prophète alayhi salatu wa salam négocie avec eux. L'émissaire repart sans avoir atteint son but. Il arrive à la Mecque, il les informe que les musulmans vous disent qu'ils sont venus pour accomplir la umrah, ils ne veulent pas combattre, ils n'ont pas d'armes, ils ne veulent pas s'opposer à vous ni vous affronter. Et d'ailleurs, certains des kuffars ont été touchés et ont dit à leurs comparses ou à leurs amis: mais pourquoi voulez-vous les combattre? Ils n'ont pas d'armes, ils ne veulent pas nous combattre. Ils ne sont venus que pour accomplir une umrah. Laissez-les donc. Et eux n'ont pas accepté. Donc ils ont envoyé un deuxième émissaire. Il a essayé de négocier. Un troisième. Et ainsi de suite. Et chacun repartait sans atteindre le but, qui était de dissuader les musulmans et de le faire faire demi-tour. Jusqu'à ce qu'est arrivé, jusqu'à l'arrivée de Suhail ibn Amr, un autre émissaire. Et avec lui, il va y avoir ce qu'on va appeler Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, cette chose qui est très connue dans la sira, dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, lorsque Suhail est arrivé, regardez le nom qu'il porte, Suhail. Ce nom vient à la base de Sahl. Et Sahl, c'est quelque chose qui est facile. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Suhail arriver, il a dit à ses compagnons, قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. Votre situation va se faciliter. En se basant sur le nom de Sahl. Et ça, c'est une chose qu'on appelle التفاؤل, l'optimisme. Et dans Kitab al-Tawhid, pour ceux qui l'ont étudié, vous le voyez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ولكن يعجبني الفعل. Mais l'optimisme me plaît. Qu'est-ce que l'optimisme? Par exemple, Cheikh Abd al-Razzaq donne un exemple. Il dit par exemple, il y a une personne qui est malade et qui est à l'hôpital. Une deuxième personne va la visiter. Quand une troisième personne passe, cette personne s'appelle Salim. À la base, Salim, c'est celui qui est sain, qui est en bonne santé. Quelqu'un l'appelle Salim, et quand il entend le nom et le mot Salim, qui veut dire en bonne santé, il est touché par l'optimisme. Il se dit Inch'Allah, c'est un bon signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala sayusallimuhu, va lui accorder le salut, la guérison, la santé, et ainsi de suite. Et bien ça, c'est une chose qui n'est pas interdite tant qu'on a pour conviction que le bien vient d'Allah et le mal est repoussé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Suhail est arrivé, le prophète a dit sahula lakum min amrikum, votre situation va devenir plus facile. Et donc avec Suhail, il parvint à un accord avec le prophète alayhi salatu wa salam. Le traité de paix proposé par Suhail prévoyait le retour cette année-là des musulmans qui serait en contrepartie autorisé à accomplir une umrah l'année suivante. La première chose que Suhail a dite aux musulmans, et donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette année, vous ne pourrez pas accomplir de umrah. Faites demi-tour. Et seulement l'année prochaine, on vous donnera la permission d'entrer à la Mecque, d'effectuer la umrah, sans que quelqu'un ne vous porte atteinte. Pourquoi ? L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte l'histoire et nous dit que Suhail a dit que la raison qui a poussé ce dernier à empêcher les musulmans à entrer dans la Mecque pour la Umrah, c'est la peur que les autres tribus arabes disent de Quraysh qu'ils ont eu peur et que quand les musulmans sont arrivés, ils ont mis la pression à Quraysh et ils ont réussi à entrer. Et donc, Quraysh a fléchi et a faibli. Ils se sont soumis à leur ennemi. Donc ils ont dit, on ne peut pas accepter que les Arabes et les autres tribus aux alentours de la Mecque nous critiquent et disent de nous que nous sommes des lâches et que, à cause de la peur qu'on avait pour vous, on vous a laissé entrer à la Mecque. Alors, on vous laisse partir cette année et l'année prochaine, vous pourrez revenir. Car l'année prochaine, il n'y aura pas la surprise. Tout le monde saura que le prophète va venir. Comprenez ? Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont refusé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à la Mecque pour accomplir la Umrah. Compte tenu de la bénédiction qu'Allah y avait placée et de ses nombreux avantages pour les musulmans, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta la proposition malgré la répugnance de certains compagnons au nombre desquels Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit pas de Umrah cette année. vous allez faire demi-tour, rentrer à Mecca et on reviendra l'année d'après. Et certains des sahaba radiallahu anhum lui ont dit, ya Rasulallah, nous sommes les musulmans, c'est nous qui sommes dans la vérité, c'est nous qui obéissons à Allah et on vient pour faire un umrah et les kuffars nous empêchent et nous devons nous soumettre à ce qu'ils veulent de nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il prend une décision, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Et dans ce que décide le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sagesse, il y a un bien. Et ceci nous donne une leçon. Des fois, Allah Azza wa Jalla nous demande de faire quelque chose. Le prophète nous demande de faire quelque chose. Et par la faiblesse, on dit, oui, mais si on met en pratique cet ordre, il nous arrivera telle et telle chose, en se basant que sur ce qui est apparent, et en étant inattentif à ce qu'on ne peut pas voir, la sagesse d'Allah Azza wa Jal, et le bien qui va arriver si on se soumet aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Et si vous voulez qu'on image bien cette chose-là, en vous donnant un exemple concret de ce que vit la communauté musulmane au jour d'aujourd'hui, regardez les révolutions. Les révolutions dont a été victime la communauté musulmane et qui n'ont apporté que du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, tellement nombreux qu'on, subhanallah, on se demande comment les gens sont passés à côté de ces interdictions. Nous interdit de faire ce qu'on appelle les révoltes, de se retourner contre les gouverneurs, de faire tout ce qui est fait, les manifestations, etc. Qu'est-ce que disent les musulmans ? On ne mange pas de pain. L'eau, le pain, les légumes, les fruits sont trop chers. Regardez ce qu'ils disent. En quelque sorte, ils disent, si on obéit au prophète, alayhi salatu wassalam, on ne va pas manger, on ne va pas boire. Ils ne voient pas le bien qu'il y a derrière l'ordre d'Allah, azza wa jal. Regardez le sang des musulmans qui a coulé maintenant. Si il y avait un seul bien, pourquoi on ne voit pas de bons résultats de toutes ces choses-là ? Pourquoi on n'entend que des morts, des viols, des crimes, l'économie qui est tombée, des gens qui se sont appauvris, des maladies qui ont pris naissance, que du mal et rien de bien ? Pourquoi ? Il ne peut pas y avoir de bien dans la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'imam muslim rahimahullah a dit, Isbir, il dit aux compagnons qu'il dit au messager d'Allah, quand les gouverneurs injustes arriveront, que devrons-nous faire? Il lui dit, Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Obéis et écoute, même s'il te frappe ton dos et vole ton argent. Allahu Akbar. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Et ces hadiths, ils sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Mais les innovateurs n'en font qu'à leur tête et ils décident de suivre autre chose. Résultat, regardez ce qui leur arrive. Et on va, pourquoi on vous cite cet exemple ? Car maintenant, on va revenir à la sirah. Car le but de la sirah n'est pas de passer le temps. C'est de tirer des leçons, de prendre exemple de ce qui s'est passé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de le vivre et essayer de le mettre en pratique pour avoir la même réussite qu'eux ont eue. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas d'argent. Et regardez la réussite qu'Allah leur a donnée. Aujourd'hui, il y a peut-être l'argent, il y a peut-être tout, et on n'a pas de réussite. Parce que, soit on n'étudie pas la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, soit on l'étudie de façon académique. On lit le journal et on continue. On ne se change pas, on ne se réforme pas, on ne se corrige pas. Ce n'est pas le but de l'étude de la sirah. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a accepté, les compagnons sont venus et ont dit au messager d'Allah, nous sommes les musulmans, nous sommes dans la vérité et nous nous soumettons à leurs demandes. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, oui, faites demi-tour, jusqu'à un compagnon qui vient et qui dit au messager d'Allah, ne nous as-tu pas promis qu'on allait accomplir la amra? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, oui, et est-ce que je t'ai dit qu'on allait l'accomplir cette année? Avec la hikmah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les compagnons se sont exécutés. Ils ont Ils ont rebroussé chemin, vous allez, inshallah, voir la suite. Il interrogea à ce sujet Abu Bakr et le messager d'Allah, qui tous deux lui firent la même réponse. Mohammed est le messager, est le serviteur et messager d'Allah. Il ne désobéira donc pas à son Seigneur qui lui accordera la victoire. Al-Bukhari rapporte d'ailleurs en détail ce hadith dans son recueil de récits prophétiques authentiques, son sahih. Umar ibn Khattab radiallahu anhu va voir le prophète alayhi salatu wa salam pour le dire au messager d'Allah, nous sommes les musulmans. Nous sommes les musulmans. Nous sommes dans la vérité. Le prophète lui dit oui, et tu dois obéir. Puis il va voir Abu Bakr radiallahu anhu et il essaye peut-être de le convaincre ou de voir. Abu Bakr radiallahu anhu lui dit oui, et tu dois obéir. Et par Allah, le prophète détient avec lui la vérité. Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar a dit, ya Rasulallah, non, ça c'est ce qu'on va voir après inshallah ta'ala. L'imam al-Bukhari a rapporté, vous pouvez lire le hadith entièrement inshallah, vous aurez plus de détails. Qalafa قاضاه سهيل بن عمرو عنا أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ابن كثير رحمه الله تعالى a dit, le traité conclu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Suhail ibn Amr stipula donc que les musulmans devaient repartir cette année, n'étant autorisés à accomplir la Umrah que l'année suivante, c'est-à-dire en l'an 7. Il ne leur serait alors permis d'entrer à la Mecque que les sabres rengainés dans leur fourreau et ne pourraient y demeurer que 3 jours au plus. C'est-à-dire que les kofars ont dit aux musulmans, cette année, vous rentrez à Médine et vous ne pourrez accomplir la Umrah que l'année prochaine. Deuxièmement, vous ne pourrez rester à Mecca que 3 jours. Après 3 jours, vous devrez repartir. Troisièmement, vos épées, vos armes devront être rangées dans leurs étuis et vous ne devez pas sortir vos armes. En apparence, celui qui ne connaît pas va dire, les musulmans se sont affaiblis, ils se sont soumis, ils ont fléchi. Mais vous allez voir l'immense baraka qui va sortir de cette histoire. En outre, la trêve conclue entre les musulmans et les polythéistes devait permettre aux uns de circuler librement et en toute sécurité parmi les autres, et ce, durant 10 ans. Ils se sont mis d'accord pour arrêter la guerre pendant 10 ans. Plus de combats, plus de batailles, pendant 10 ans. Or, ce traité de paix constitua l'une des plus éclatantes victoires musulmanes, comme le dira par la suite Abdullah ibn Mas'ud. Cette pause, cette trêve de 10 ans a été d'un énorme intérêt pour les musulmans. Pourquoi ? Car en vérité, elle va servir à se préparer pour la conquête de la Mecque. Puisque vu qu'il y a un traité de paix, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de combat. Donc les musulmans maintenant vont se concentrer sur la conquête de la Mecque. Ils ne vont plus craindre l'attaque de l'ennemi en traître ou autre. Ils vont se concentrer et se préparer au jour où ils viendront à la Mecque pour conquérir ce village et le restituer aux musulmans. À un point, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que la trêve de 10 ans était en vérité la plus grande victoire pour les musulmans. Radiallahu anhu. Ensuite, il dit وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء دخل في عقد قريش فكانت خزاعة ممن دخل في عقده صلى الله عليه وسلم ودخل بنو بكر في عقد قريش وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار وحرمهن على الكفار يومئذ. Ibn Kathir continue en disant: selon l'accord conclu, quiconque parmi les tribus arabes souhaitait adhérer au pacte, que ce soit du côté du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ou du côté de Quraysh, pouvait le faire. Ils ont conclu que celui qui voulait aller avec le prophète pouvait le faire. Celui qui voulait rejoindre Quraysh pouvait le faire. On ne blâmait personne. On ne blâmait personne, car cela faisait partie du pacte. Arhamukallah. Il dit ainsi, Khuza'a, c'est le nom d'une tribu, adhéra au traité du côté des musulmans, et les Bani Bakr, notre tribu, du côté des mushrikines, des polythéistes. Autre condition imposée aux musulmans, écoutez bien celle-ci. Autre condition imposée aux musulmans par les polythéistes, quiconque, même musulman, fuirait vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devrait être renvoyé à Quraysh. Tandis que si un musulman allait se réfugier chez les polythéistes, il ne serait pas livré aux musulmans. Allahu Akbar. Les kuffars ont dit, si vous voulez l'année prochaine venir faire votre Umrah, il n'y a pas de problème, mais voici les conditions. Pendant 10 ans, on arrête de combattre. Les musulmans qui vivent à la Mecque avec nous, les mushrikines, s'ils fuient la Mecque pour vous rejoindre à Médine, vous devrez nous les rendre. Ils ne resteront pas avec eux, en sachant qu'il y a des musulmans qui sont emprisonnés chez Quraysh. Et comme vous allez le voir dans l'histoire que je vais vous raconter, ils vont prendre la fuite vers les musulmans et les musulmans vont les renvoyer à Quraysh. Subhanallah. Et ils seront enchaînés, ils supplieront les musulmans de les aider et le prophète leur dira de retourner. Si on se base sur ce que nos sentiments nous dictent, sans regarder l'ordre d'Allah Azza wa Jal, on dira mais pourquoi cette injustice ? Et l'injustice, c'est de prononcer cette parole. Ce n'est pas de suivre l'ordre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Imaginez-vous un peu la difficulté. Quand Omar entend ça, radiallahu anhu, il ne comprend plus rien. À un point, il dit, c'est peut-être la première fois où j'ai été touché par le doute. Et j'ai dit, oh messager d'Allah, ne sommes-nous pas les musulmans ? Si. Ne sommes-nous pas dans la vérité ? Si. Oh Abu Bakr, ne sommes-nous pas nous les musulmans dans la vérité ? Si. Et Omar, radiallahu anhu, ne comprend pas, mais il se dit, je dois suivre l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne suit pas ses sentiments. Il a des sentiments, car c'est humain, mais il les écrase avec l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et c'est comme ça que doit être le musulman dans sa vie et dans tout ce qu'il fait. Et c'est seulement comme ça que les musulmans réussiront. Et la cause des problèmes qui touchent les musulmans, c'est qu'ils ont délaissé les textes et suivi leurs sentiments, et ce que leur tristesse leurs dictes, leurs égaux, leurs sentiments, en dehors de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé de faire. Regardez la difficulté, comment elle est énorme, subhanallah. Néanmoins, Allah défendit aux musulmans de renvoyer aux mécréants les croyantes qui émigraient vers le messager d'Allah Azza wa Jal, alayhi salatu wasalam, à Médine. C'est-à-dire que ils ont dit, d'accord, si un musulman vous quitte et revient à Médine, on accepte de vous le rendre. Et si un musulman vient à la Mecque, eh bien vous pouvez le garder. Allahu Akbar. Mais quand vous allez voir la suite, vous allez comprendre la hikma d'Allah Azza wa Jalla, la sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla leur a interdit une chose, une exception, les femmes. Si les femmes musulmanes quittent la Mecque et viennent à Médine, les musulmans doivent les garder. Ça, c'est une exception. Car la femme, elle est protégée. On ne la rend pas au kuffar. On la laisse avec les musulmans. Et Allah Azza wa Jalla a même révélé les versets de Surat Al-Mumtahana, les prouver. Ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akumul mu'minatu muhajirat, famtahinuhun, Allahu a'lamu bi'imanihin, fa'in alimtumuhunna mu'minat, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, la hunna hillun lahum, wala hum yahilluna lahun, jusqu'à la fin du verset 10 de Al-Mumtahana, les prouver. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal interpelle les croyants, ô vous qui avez cru, et à la fin, au milieu du verset, il leur dit que si les femmes croyantes quittent la Mecque et viennent émigrer à Médine, ne les rendez pas aux kuffars. Ne les rendez pas aux kuffars. Et vos femmes sont interdites en mariage aux kuffars. Et eux ne doivent pas les épouser. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avait deux femmes à la Mecque qui étaient mushrikates. Que c'est parti des polythéistes. Dès qu'il a entendu ce verset, il les a immédiatement divorcés et deux autres hommes les ont épousés. Donc c'était la seule exception. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant que le prophète est en train d'accepter, de contracter ce pacte avec Quraysh? Un homme arrive. Cet homme s'appelle Abu Jandal ibn Suhayl. C'est un compagnon, radiallahu anhu, qui était prisonnier à Mecca. Il a réussi à fuir de la Mecque avec ses menottes. Il était attaché. Il arrive à Médine. Il arrive à Al-Hudaybiyah, pardon. Il était en route vers Médine. Et il voit le prophète, alayhi salatu wassalam, les musulmans, les compagnons. Il se dit, Alhamdulillah, je suis sauvé. Mais pendant ce temps-là, le prophète est en train de dire aux kuffars, on accepte, si un musulman nous vient, de vous le rendre. Et alors Abu Jandal arrive avec ses menottes, il court et il saute, il se jette chez les musulmans. Et il dit « Alhamdulillah, je suis sauvé ». Suhayl, l'homme qui écrit le pacte avec le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit « Ô Muhammad, voici le premier homme que je te demande de me rendre comme tu t'es mis d'accord avec moi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Nous n'avons pas encore contracté. Nous n'avons pas encore écrit cette condition. Ce n'est que verbalement qu'on s'est mis d'accord. » Suhayl lui dit, alors pas de Amra l'année prochaine. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, d'accord. Alors vous pouvez le reprendre. Abu Jandal est avec les menottes, il regarde les musulmans. Pensez que le prophète n'a pas pitié de lui? Pensez que le prophète ne veut pas du bien pour son compagnon? Au vous qui suivez vos sentiments, qui suivez les innovations et qui avez apporté du mal à la Ummah, que dites-vous du prophète, alayhi salatu wassalam? Vous dites qu'il n'aime pas son compagnon et qu'il ne veut pas de bien pour lui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, lève-toi et retourne avec eux. Abu Jandal dit, oh les musulmans, yuriduna an yaftinuni fi dini. Ils veulent me tenter dans ma religion, ils veulent m'égarer de ma religion, aidez-moi. Et Omar regarde. Et les musulmans regardent avec leurs yeux. Ils voient leurs frères enchaînés en train de pleurer. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais ils ne peuvent rien faire. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, laissez-le repartir avec les kuffars à Mecca. Donc qu'est-ce qui se passe? Abu Jandal obéit. Et il retourne avec les kuffars à Mecca. Mais il ne va pas à la Mecque. Pardon, il retourne à la Mecque. Naam. Un deuxième homme arrive. Cet homme-là, c'est Abu Basir. Naam. Radiallahu anhu. Lui, il arrive à Médine. Donc, c'est après le pacte de l'Hudaybiyah, quand les musulmans retournent à Médine. Un deuxième compagnon s'est sauvé des kuffars et est arrivé à Médine. Quand il est arrivé, deux hommes de Quraysh le suivaient. Ils ont immédiatement été voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit, ô Mohammed, tu t'es mis d'accord avec nous,
tu t'es engagé à nous rendre les musulmans. Et lui s'est sauvé, tu dois nous le rendre. Car tu as signé. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit à Abu Basir, retourne avec eux. Abu Basir retourne avec eux. Et quand il est en route, il arrive à un moment à un endroit qui s'appelle Dhul Hulaifa. Et Dhul Hulaifa, c'est l'endroit où on commence la Umra, à Médine, où il y a la mosquée où les gens vont se laver et ils commencent la Umra, le Miqat, le point de départ géographique de la Umra. Donc il s'assoit pour manger. Et Abu Basir, radiallahu anhu, regarde les kuffars de Quraysh. Il y a un des deux qui a une épée derrière le dos. Abu Basir le met en confiance et il lui dit « Oh, combien est belle ton épée !» Ton épée est belle, ton arme est très belle. Et lui se fait tromper, il lui dit « Effectivement, elle est belle, je l'ai achetée à tel endroit, j'en ai fait telle et telle chose. » Et il lui dit « Est-ce que je peux la voir de plus près ?» Et l'imbécile sort son épée et la donne à Abu Basir. Abu Basir, radiallahu anhu, prend l'épée et lui coupe sa tête. Et il se sauve à Médine. Et le deuxième, l'ami du kafir, qui vient de se faire tuer, court vers Médine pour le dénoncer au prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Basir court, il arrive à Médine. Le deuxième arrive à Médine. Et il dit, « Oh Muhammad !» Et il était complètement apeuré, paniqué. Abu Basir a tué mon ami qui est venu le chercher alors que tu nous avais promis de le rendre. Abu Basir lui dit, retourne avec eux à Mecca. Le prophète lui dit, retourne avec eux à Mecca. Abu Basir radiallahu anhu lui dit, Ya Rasulallah, tu as tenu tes engagements. Tu m'as dit de retourner, j'y suis retourné et Allah m'a ramené encore. Donc toi, tu as tenu ta promesse et maintenant c'est Allah qui m'a ramené ici. Le prophète lui dit « Non, retourne à Mecca. » Et alors il retourne à Mecca. Mais en vérité, il n'a pas été à la Mecque, il s'est arrêté vers une montagne, il s'est installé dans une montagne proche de la Mecque. Et Abu Dendel, le premier qui est retourné à Mecca, en tant qu'Abu Basir est revenu, mais qu'il s'est sauvé dans une montagne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se sauve de la Mecque. Et il va rejoindre son compagnon dans la montagne. Ils vivent à deux. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez la sagesse d'Allah qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut obéir à Allah Azza wa Jal. Les sahaba commencent à fuir et aller dans cette montagne. Et les gens de Quraysh commencent à se convertir à l'islam et aller dans cette montagne. Et ça forme un groupe. Et qu'est-ce que ce groupe fait? À chaque fois qu'un convoi de commerce de Quraysh passe, ils l'attaquent et ils leur prennent leurs armes, leurs vêtements, leurs chameaux, et leur prennent tout. Et Quraysh commence à se fatiguer de cette armée qui est cachée dans une montagne, ils n'arrivent à rien faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient au prophète une lettre et lui disent « Oh Mohammed, débarrasse-nous d'eux, prends-les. » Résultat, ils sont revenus à Médine. Regardez la hikma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas réussi à supporter. Et donc, il faut se soumettre aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا أَمْرٌ عَزِيزٌ مَا يَقَعُ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ تَخْصِيصُ السُنَّةِ بِالْقُرْآنِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّهُ نَسْخًا كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ. ابن كثير رحمه الله continue. Il dit, Allah défendit aux musulmans de renvoyer aux mécréants les croyantes qui émigraient vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Dans le même verset, Allah décréta que les croyantes n'étaient plus permises aux mécréants en tant qu'épouses. Une deuxième parenthèse. Les kuffars, c'est bien eux qui ont émis cette condition. Et c'est bien eux qui ont dit, si les musulmans fuient la Mecque, tu dois nous les rendre. Et c'est avec leurs propres conditions qu'ils ont données qu'ils se sont fait avoir. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal est avec les croyants. Et tu peux mettre 6000 conditions avec un croyant mouahid, wallahi, c'est le mouahid qui gagnera. Ça, c'est la sagesse d'Allah et c'est le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on ferme cette parenthèse. Il s'agit donc là d'un cas très rare où le Coran vient préciser et limiter le champ de la sunna. C'est-à-dire que dans la sunna, dans l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'interdiction de rendre les musulmans qui ont fui la Mecque à la Mecque. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la sunna. Et dans le Coran, il y a un ordre qui est venu limiter et préciser ou donner une exception qui est les femmes. Les femmes, on doit les rendre. Certains, cependant, certains comme Abu Hanifa préfèrent parler d'abrogation de la sunna par le Coran. Ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa et d'autres savants qui ont dit que au début, le prophète a interdit de rendre les musulmans à Mecca. Puis quand Allah Azza wa Jal a révélé ce verset, il a abrogé l'interdiction. L'interdiction a disparu. Maintenant, on a le droit. Mais ce n'est pas l'avis de la plupart. Il dit d'ailleurs, leur désaccord n'est pas si profond puisqu'au fond, ils se limitent à la terminologie employée. C'est-à-dire qu'ils sont en désaccord que sur la forme, pas sur le fond. Avant la conclusion de cette trêve, وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء معتمرا فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم وقال لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, avant la conclusion de cette trêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Uthman ibn Affan radiyallahu an au Mekwa afin de le rassurer sur ses intentions. Il n'était pas venu pour combattre qui que ce soit, mais pour accomplir une umrah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman, va, entre à Mecca et dis à ces gens-là qu'on n'est pas venu pour la guerre, on est venu pour la umrah, qu'ils nous laissent, il n'y aura pas de combat. Et Uthman radiyallahu anhu a été pour leur donner cette information. Et c'est suite à ça qu'il va y avoir ce qu'on va appeler bay'atul ridwan, c'est-à-dire l'allégeance de l'agrément. C'est-à-dire que il va se passer quelque chose qui va faire que les compagnons vont prêter allégeance au prophète alayhi salatu wassalam pour aller combattre Quraysh. Et Allah va être satisfait de tous, et il va révéler d'ailleurs des versets. Mais c'est ce qui fera l'objet de notre prochain cours. Incha'Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.